Bien des années plus tard, sur son lit d'agonie, Aureliano II devait se rappeler cet après-midi pluvieux de juin où il fit irruption dans la chambre pour faire connaissance avec son premier fils. Bien que ce dernier fût maladif, pleurnicheur, et qu'il n'eût rien de commun dans les traits avec un Buendía, le père n'eut pas besoin d'y réfléchir à deux fois pour lui coller un nom. « Il s'appellera José Arcadio », dit-il. Fernanda del Carpio, la belle femme avec qui il s'était marié l'an passé, donna son accord. Ursula, par contre, ne put dissimuler un vague sentiment d'inquiétude. Dans la longue histoire de la famille, la répétition persistante des prénoms lui avait permis de tirer des conclusions qui lui paraissaient décisives. Alors que les Aureliano étaient renfermés mais perspicaces, les José Arcadio étaient impulsifs et entreprenants, mais marqués d'un signe tragique. Dans les seuls cas de José Arcadio II et d'Aureliano II, la classification s'avérait impossible. Au cours de leur enfance, ils étaient si ressemblants et si remuants que Sainte Sophie de la Piété elle-même ne parvenait pas à les distinguer. Le jour de leur baptême, Amaranta leur passa des bracelets portant leurs noms respectifs et les habilla de vêtements de différentes couleurs marqués aux initiales de chacun. Mais lorsqu'ils commencèrent d'aller en classe, ils choisirent d'échanger leurs effets et leurs bracelets et de s'appeler mutuellement du nom de l'autre. Le maître d'école, Melchor Escalona, habitué à reconnaître José Arcadio II à sa chemise verte, ne sut plus à quel saint se vouer quand il découvrit que celui-ci portait le bracelet d'Aureliano II, lequel disait pourtant s'appeler Aureliano II, bien qu'il portât la chemise blanche et le bracelet gravé au nom de José Arcadio II. Désormais, il était impossible de savoir avec certitude qui était qui. Même lorsqu'ils grandirent et que la vie les rendit différents, Ursula continua à se demander s'ils ne s'étaient pas eux-mêmes trompés à un moment ou à un autre de l'imbroglio qu'ils s'étaient amusés à créer et n'étaient pas restés intervertis pour toujours. Jusqu'au début de l'adolescence, ce furent comme deux mécaniques bien synchronisées. Ils se réveillaient en même temps, éprouvaient à la même heure l'envie d'aller au petit coin, connaissaient les mêmes ennuis de santé et allaient jusqu'à rêver des mêmes choses. À la maison, où chacun croyait qu'ils coordonnaient leurs actes par simple plaisir d'induire les gens en erreur, personne ne se rendit compte de ce qui s'était réellement passé jusqu'au jour où Sainte Sophie de la Piété, ayant donné un verre de citronnade à l'un d'eux, celui-ci n'y avait pas encore goûté, que l'autre affirma qu'elle n'était pas sucrée. Sainte Sophie de la Piété, qui avait effectivement oublié de sucrer la citronnade, fit part de l'incident à Ursula. « Ils sont tous comme ça, » dit-elle sans paraître surprise. « Tous fous de naissance. » Le temps finit de tout emmêler. Celui qui, après le rimbroglio, était resté avec le prénom d'Aureliano II, devint aussi colossal que son grand-père, et celui auquel finit par échoir le prénom de José Arcadio II, aussi maigre et osseux que le colonel, et le seul trait commun qu'ils conservèrent fut cet air de solitude qu'ils tenaient de famille. Ce fut sans doute cette interversion des noms, des caractères et des constitutions physiques, qui amena Ursula à suspecter que l'erreur qui avait brouillé les cartes remontait à leur enfance même. La différence radicale entre les deux apparut en pleine guerre. Lorsque José Arcadio II demanda au colonel Guerinello Marquez qu'il l'emmena assister aux exécutions. Son désir fut satisfait contre la volonté d'Ursula. Aureliano II, en revanche, frémit à la seule idée de voir fusiller quelqu'un. Il préférait rester à la maison. À 12 ans, il s'enquit auprès d'Ursula de ce que contenait la petite pièce condamnée. « Des papiers, » lui répondit-elle. « Ce sont les livres de Melquiades et... les choses bizarres qu'il a écrites dans les dernières années de sa vie. » Cette réponse, au lieu de l'apaiser, augmenta sa curiosité. Il insista tellement et jura avec tant d'ardeur qu'il ne dérangerait rien qu'Ursula lui confia les clés. Personne n'était entré dans le cabinet de travail depuis qu'on en avait sorti le cadavre de Melquiades et posé sur la porte un cadenas dont la rouille avait soudé toutes les pièces. Mais quand Aureliano II eut ouvert les fenêtres, il y pénétra une lumière familière qui paraissait habituée à venir éclairer quotidiennement le cabinet de travail, et on aurait pu déceler la moindre trace de poussière ou de toile d'araignée. Bien au contraire, tout était propre, balayé, mieux balayé et plus propre qu'au jour même de l'enterrement. Et l'encre n'avait pas séché au fond de l'encrier. L'oxyde n'avait pas altéré le brillant des métaux, et dans l'athanor qui permit à José Arcadio Buendía d'obtenir des vapeurs de mercure, les braises ne s'étaient pas éteintes. Sur les étagères étaient disposés les livres recouverts d'une sorte de carton livide, semblable à de la peau humaine tannée, ainsi que les manuscrits intacts. Bien que la pièce fût demeurée condamnée pendant de nombreuses années, l'air y paraissait plus pur que dans le reste de la maison. Tout était si net et en si bon état qu'au bout de quelques semaines, quand Ursula fit irruption dans le cabinet de travail armée d'un seau d'eau et d'un balai pour laver par terre, elle ne trouva rien à faire. Aureliano le second était plongé dans la lecture d'un livre. L'ouvrage ne portait pas de couverture et son titre n'apparaissait nulle part, mais cela n'empêcha pas l'enfant de dévorer avec le plus grand plaisir l'histoire de cette femme qui se mettait à table pour ne manger que des grains de riz qu'elle piquait avec des épingles. Et l'histoire de ce pêcheur qui emprunta du lest pour son filet à un voisin et remercia ce dernier, par la suite, avec un poisson qui avait un diamant dans l'estomac. Des histoires de lampes qui exaucent tous les désirs et de tapis volants. Stupéfait, il demanda à Ursula si tout cela était vrai. Et elle lui répondit qu'en effet, bien des années auparavant, les gitans étaient venus à Macondo avec ses lampes merveilleuses et ses tapis volants. « Ce qu'il y a, soupira-t-elle, c'est que le monde va finissant peu à peu et ces choses-là n'arrivent plus. » Lorsqu'il eut achevé le livre dont beaucoup de contes étaient incomplets parce qu'il manquait des pages, Aureliano le second entreprit de déchiffrer les manuscrits. Ce lui fut impossible. Les lettres ressemblaient à un linge mis à sécher sur un fil de fer et tenaient davantage de la notation musicale que de l'écriture littéraire. Par une ardente journée vers midi, tandis qu'il s'astreignait à vouloir percer le secret des manuscrits, il sentit qu'il n'était pas seul dans la pièce. Se découpant sur la réverbération de la fenêtre, Melquiades était assis, les mains sur les genoux. Il n'avait pas plus de la quarantaine. Il portait le même gilet anachronique et son chapeau en aile de corbeau, et le long de ses tempes blafardes ruisselait la graisse des cheveux fondus par la chaleur, comme l'avaient remarqué Aureliano et José Arcadio dans leur enfance. Aureliano le second le reconnut sur le champ, car ce souvenir héréditaire s'était transmis de génération en génération et, partant de la mémoire de son aïeul, était arrivé jusqu'à lui. « Salut, » dit Aureliano le second. « Salut, jeune homme, » répondit Melquiades. Dès lors, pendant plusieurs années, ils se virent presque chaque après-midi. Melquiades lui parlait du monde, essayait de lui inculquer son vieux savoir, mais il se refusa à traduire les manuscrits. « Nul ne doit en connaître le sens avant que ne se soit écoulé 100 ans, » expliqua-t-il. Aureliano le second garda toujours pour lui-même le secret de ses entrevues. Un jour, il sentit s'écrouler cet univers qui n'appartenait qu'à lui à cause d'Ursula, qui fit irruption dans la pièce au moment où Melquiades s'y trouvait. Mais elle ne le vit pas. « Avec qui es-tu en train de parler ?» lui demanda-t-elle. « Avec personne, » fit Aureliano le second. « Ton arrière-grand-père était comme ça, » dit Ursula. « Lui aussi parlait tout seul. » José Arcadio le second, cependant, avait satisfait son désir d'assister à une exécution. Il se souviendrait pour le restant de sa vie de l'éclair livide des 6 détonations simultanées et de l'écho des coups de feu qui se répercuta entre les monts, et du triste sourire, des yeux perplexes du fusillé qui demeura debout, tête haute, tandis que sa chemise s'imprégnait de sang, et qui continua encore à sourire quand on l'eut détaché du poteau et mis dans une caisse pleine de chaux. « Il est vivant, se dit-il, ils vont l'enterrer vivant !» Il fut tellement impressionné qu'il se prit alors à détester toutes les pratiques militaires et la guerre, non à cause des exécutions elles-mêmes, mais en raison de cette habitude épouvantable qu'on avait d'enterrer vivant les fusillés. Par la suite, personne ne sut exactement à quel moment il commença à faire sonner les cloches de la tour et à servir la messe du père Antonio Isabel, successeur d'El Cachorro, aussi bien qu'à élever les coqs de combat dans la cour du presbytère. Quand le colonel Guérinaldo Marquez fut au courant, il le réprimanda durement, lui reprochant d'apprendre des activités réprouvées par les libéraux. « La question, répondit-il, c'est qu'il me semble à moi que je suis conservateur. » Il y croyait comme à une décision du sort. Le colonel Guérinaldo Marquez, scandalisé, le rapporta à Ursula. « Tant mieux, approuva-t-elle, plaise au ciel qu'il se fasse curer et que Dieu pénètre enfin dans cette maison. » On apprit très rapidement que le père Antonio Isabel le préparait pour sa première communion. Il lui enseignait le catéchisme pendant qu'il apprêtait ses coqs en leur rasant le cou. Tandis qu'il plaçait dans leur nid les poules couveuses, Il lui expliquait avec des exemples simples comment, au second jour de la création, Dieu conçut que les poussins se formeraient à l'intérieur de l'œuf. Dès cette époque, le curé manifestait les premiers symptômes de ce délire sénile qui l'amena, des années plus tard, à dire que le diable était probablement sorti victorieux de sa rébellion contre Dieu et que c'était lui qui se trouvait assis sur le trône céleste, mais sans révéler sa véritable identité pour attraper les innocents. Emporté par la hardiesse de son professeur, José Arcadio II parvint en quelques mois à se montrer aussi expert en martingales théologiques destinées à confondre le démon qu'il était adroit à déjouer les pièges de l'enclos où se donnaient les combats de coqs. Amaranta lui confectionna un costume de lin avec col et cravate, lui acheta une paire de souliers blancs et peignit son nom en lettres dorées sur le ruban tout autour de son cierge. Deux soirs avant la première communion, le père Antonio Isabel s'enferma avec lui dans la sacristie afin de le confesser à l'aide d'un dictionnaire des péchés. La liste fut si longue que le vieux curé, habitué à se coucher dès 6 heures, s'endormit dans son fauteuil avant la fin. L'interrogatoire fut pour José Arcadio II une véritable révélation. Il ne s'étonna point quand le père lui demanda s'il avait commis de vilaines choses avec les femmes et répondit honnêtement par la négative, mais il fut désarçonné par la question de savoir s'il en avait commis avec des animaux. Le premier vendredi de mai, il communia, dévoré par la curiosité. Plus tard, il posa la question à Petronio, le sacristain malingre qui vivait dans le clocher et dont on racontait qu'il se nourrissait de chauves-souris. Et Petronio lui répondit « C'est qu'il y a des chrétiens corrompus qui font ces choses-là avec les ânesses. » José Arcadio II continua à faire montre de tant de curiosité, demanda tant et tant d'explications que Petronio perdit patience. « J'y vais tous les mardis pendant la nuit, » confessa-t-il. « Si tu promets de n'en rien dire à personne, je t'emmène mardi prochain. » Le mardi suivant, en effet, Petronio descendit du clocher, muni d'un petit tabouret dont personne jusque-là ne connaissait l'usage, et emmena José Arcadio II jusqu'à un pré des environs. Le jeune homme prit tellement goût à ses incursions nocturnes qu'on ne le vit pas de sitôt à l'établissement de Catarino. Il devint passionné des coqs de combat. « Tu vas me faire le plaisir d'emporter ces animaux ailleurs !» lui ordonna Ursula la première fois qu'elle le vit entrer avec ses bêtes de race. « Les coqs ont déjà apporté suffisamment de malheur dans cette maison pour que tu viennes toi aussi nous en amener d'autres. » José Arcadio II les emporta sans discuter, mais continua à les élever chez sa grand-mère Pilar Ternera, qui mit tout ce dont il avait besoin à sa disposition, pourvu qu'elle l'eût sous son toit. Bientôt, lors des combats de coqs, il mit en pratique tout le savoir que lui avait inculqué le père Antonio Isabel et disposa d'assez d'argent non seulement pour développer ses élevages, mais pour se procurer également de vraies satisfactions d'âme. À cette époque, quand Ursula le comparait à son frère, elle ne parvenait pas à comprendre comment les deux jumeaux, qui pouvaient passer pour un seul et même être lorsqu'ils étaient enfants, avaient fini par être si différents. Sa perplexité fut d'assez courte durée, car Aureliano II commença subitement à faire preuve de fainéantise et de dissipation. Tant qu'il demeura cloîtré dans le cabinet de travail de Melquiades, ce fut un homme renfermé sur lui-même, comme l'avait été le colonel Aureliano Buendía dans sa jeunesse. Mais peu de temps avant le traité de Néerlandia, un hasard le fit sortir de son absorbement et le mit face à la réalité du monde. Une jeune fille, qui vendait des billets de loterie pour le tirage au sort d'un accordéon, le salua avec la plus grande familiarité. Aureliano II n'en fut pas surpris, car il arrivait fréquemment qu'on le prît pour son frère. Mais il ne chercha pas à dissiper l'équivoque, même lorsque la jeune fille voulut lui ramollir le cœur avec ses pleurnicheries, et elle finit par l'emmener dans sa chambre. Elle retira de cette première rencontre un tel amour pour lui qu'elle tricha lors du tirage au sort pour lui faire gagner l'accordéon. Au bout de 2 semaines, Aureliano II se rendit compte que cette femme avait couché alternativement avec lui et avec son frère, croyant qu'il s'agissait du même, et au lieu d'éclaircir la situation, il s'arrangea pour la faire durer. Il ne remit plus les pieds dans le cabinet de travail de Melquiades. Il passait tous les après-midi dans le patio à apprendre d'oreille à jouer de l'accordéon, malgré les protestations d'Ursula qui avait alors interdit la musique à la maison en raison des deuils successifs, et qui de plus méprisait l'accordéon qu'elle considérait comme un instrument tout juste bon pour les vagabonds héritiers de Francisco Lam. Cependant, Aureliano II réussit à devenir un virtuose de l'accordéon. et continua de l'être après avoir pris femme et fait des enfants, et fut l'un des hommes les plus respectés de Macondo.